Voilà, aujourd'hui, on a laissé, comme les infos nous ont laissé quelques secondes de plus, on a laissé un peu se dérouler le générique.
On a été jusqu'au
corps. Ça fait du bien.
On était jusqu'au corps.
Jusqu'au corps.
Oui, t'as pas entendu le corps?
Ah, le corps. D'accord.
Un corps anglais.
Un corps anglais, oui. Donc, c'est très dur à enchaîner, mais on va le faire.
Bienvenue dans la deuxième partie de Onde Noire.
Voilà, et donc, dans cette deuxième partie, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, une chronique qu'on espère régulière, donc on va tenir, c'est la séquence bande dessinée noire. Et dans cette chronique, j'aimerais vous parler de deux albums. Le premier s'appelle Ken Games. Il vient d'être publié aux éditions d'Argo. Et c'est un duo de graphistes espagnols qui en sont les auteurs, qui l'ont réalisé. Il s'appelle Robledo et Toledano. Et en fait, cette BD est le premier tome d'une série. C'est assez fréquent maintenant dans les bandes dessinées. Série qui doit en comporter 3. Ici, le personnage principal est Pierre. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire que le sous-titre de Ken Games, c'est Pierre pour ce premier tome. Donc Pierre est étudiant en mathématiques. Mais, et ça on le découvre dès le début, il essaie aussi de gagner sa vie en boxant. Régulièrement, il rencontre son ami d'enfance, qui s'appelle Tichi, lui qui est un financier, un gagneur. Et au cours le premier rendez-vous dans la BD, Tichi lui présente Anne, une douce institutrice. Mais au fur et à mesure que les cases de la BD avancent, les masques tombent. Pierre n'est plus du tout étudiant en mathématiques. Il essaye vraiment de gagner sa vie en boxant. Tichi et Anne ont aussi bien des choses à cacher. Et pourtant, ce sont les meilleurs amis du monde, donc on se demande quand même pourquoi ces amis proches se mentent-ils et à quoi tout ça va-t-il mener. C'est donc une BD très noire, construite donc sur des faux-semblants, subtile, car c'est quand même plus facile de décrire, de parler avec des mots de ces faux-semblants qu'avec les images qui sont plus directes. Donc c'est vraiment j'ai trouvé ça très subtil. Les auteurs s'en sortent très bien, tant dans le scénario que dans les dessins. C'est plein de rebondissements au niveau du scénario, ça succède, mais ça dévoile pas grand-chose finalement. C'est plutôt là pour étoffer l'intrigue et nous tenir en haleine. Ce qui est intéressant au point de vue du graphisme, c'est que les visages de Pierre et de Tichi sont sans traits, simples, presque simplistes, comme pour cacher leur expression. Tandis que les autres personnages...
Les décors sont étonnamment.
Il y a des décors très très bien fichus. Les autres personnages sont tout en expressivité. Les images baignent dans des espèces de lumières artificielles, tantôt chaudes, tantôt froides. Par exemple, les premières scènes où il y a ce combat de boxe, les gros plans sur le ring et les boxeurs sont dans les tons d'orange très chaudes, tandis que l'environnement, quand on s'éloigne un peu, ça se teinte de vert. Scènes d'action, de boxe et de bagarre d'ailleurs, qui sont assez impressionnantes dans le rendu du mouvement. On casse carrément les cases. Et il y a des enchaînements de cases tordues qui sont assez impressionnantes. C'est vraiment une jolie réussite et on attend donc avec impatience la suite. Cependant, les deux artistes ont été quand même suffisamment sages quant à leur histoire. On peut l'attendre tranquillement. C'est pas une fin qui se dit « Oh là là, vite que ça sorte le suivant ». Je trouve qu'ils ferment une espèce de case et puis on attend la suivante. C'est bien. Donc d'ailleurs, ça va s'appeler Feuille, le deuxième, et ça paraît en août. On n'a pas longtemps à attendre. Tout ça pour 13,50 €. Vraiment une belle découverte. On vient de parler de nouveau dans la BD. On va passer à un vieux briscard de la case BD, c'est-à-dire Tardi, qui est l'auteur de tous les dessins des 4 histoires réunies dans un très très beau recueil qui s'intitule New York Mi Amor. Et c'est aux éditions Casterman, j'avais perdu. New York, parce que toutes ces histoires se passent à New York, magnifiquement dessinées d'ailleurs par Tardi. La première histoire, c'est la plus longue, elle s'appelle Tueur de cafards. Le scénario est de Benjamin Legrand. Ça nous raconte les aventures de Walter Eisenhower, exterminateur de cafards à la société Blitz, et qui découvre, en se trompant d'étage, un truc bizarre, de très très vilains secrets. Les dessins sont absolument magnifiques, avec tout le fond en noir et blanc, et juste le rouge de la voiture de la société Blitz et de la combinaison de Walter, qui sont en fait une provocation permanente et une trouvaille graphique totalement géniale. Suivent 3 histoires beaucoup plus courtes.
La nouvelle, le truc, ça s'appelle Tueur de cafards.
Tueur de cafards, pardon, excusez-moi. Deuxième histoire, beaucoup plus courte. D'ailleurs, les trois histoires suivantes sont beaucoup plus courtes. It's So Hard, scénario de Dominique Grange, ainsi que Le Meurtrier de Hung. Deux histoires qui se passent évidemment à New York. Enfin, la dernière, dessin et scénario de Tardy, qui s'appelle Manhattan. Alors Jacques, pourquoi ça s'appelle It's So Hard ?
Parce qu'en fait, c'est une nouvelle qui était parue dans un magazine à suivre, je crois, oui. À l'occasion de la mort de John Lennon. Donc It's So Hard, c'est une chanson de John Lennon. Et donc, ça raconte l'histoire d'un sosie de John Lennon.
Oui, alors donc, ces quatre histoires qui sont rassemblées dans ce très très beau recueil ont déjà été publiées. Toutes dans les années 80, voilà, entre 80 et 85.
Tout, il y a plus d'une vingtaine d'années.
Voilà, et donc c'est très important d'en parler maintenant, même si c'est une réédition, parce que tous les jeunes et les un peu moins jeunes qui s'intéressent à la BD, bah, ils ont complètement loupé ça. Rappelons que 80-85, c'est il y a plus de 20 ans. Et oui, le temps passe. Donc, très beau recueil, New York mis à mort. Quatre magnifiques histoires dessinées par Tardy avec des scénarios de Benjamin Legrand et de Dominique Grange. Tout ça pour 15 euros. Voilà. Et en plus, on se retrouve dans l'ambiance de New York. C'est vraiment pas cher.
Voilà. Puis New York mis à mort ou alors New York mis à mort avec un jeu de mots que...
Mise à mort.
Voilà,
mais il n'y a pas le S. Ah,
oui, oui, non, mais c'est un jeu de mots que fait Benjamin Legrand et qui est... Vu les histoires racontées, qui n'est pas si mauvais que ça, même qui est plutôt très bon.
Et d'ailleurs, vous avez en prime les explications de Benjamin Legrand, qui écrit fort bien. D'ailleurs, il avait publié il y a longtemps un roman noir, Lovely Rita.
Qui était excellent.
Donc, Jacques, tu nous présentes le morceau de musique ?
Eh bien, c'est un morceau de musique qui va nous permettre d'accueillir le Jean-Marc Lahrer tout à l'heure. Et donc, la dernière fois, nous avions mis Mustang Sally par Buddy Guy. Et ce coup-ci, ça sera Mustang Sally par les Commitments.
Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, now baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been
Et voilà, c'était le Mustang Sally des Commitments. Jean-Marc Lahrer, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons le plaisir de vous retrouver pour que vous nous parliez et vous nous fassiez part de votre enthousiasme pour un livre de Sébastien Routès.
Exactement, donc pour changer un peu, après on m'a dit que je parlais beaucoup d'auteurs américains. Donc voilà un auteur français, Sébastien Routès, qui a écrit donc un nouveau polar publié à Latinoir.
Petite maison d'édition. Allô ?
Oui.
Ah pardon, excusez-moi.
Oui, oui. Donc La Loi de l'Ouest, publié chez Latinoir. Alors, Sébastien Routès est un auteur français qui en a son second roman, sociologue universitaire, spécialiste du polar latino-américain et plus précisément spécialiste de Paco Ignacio Taibo II.
Grand auteur mexico-hispanique.
Voilà. Et là, il publie en fait un polar qui n'a rien à voir, ou presque, avec Paco Ignacio, sinon un amour partagé pour tout ce qui est la culture populaire, et en l'occurrence le western.
Donc, partons dans l'ouest.
Alors, c'est la voie de l'ouest, nous allons partir en partie dans l'ouest, oui, effectivement. Alors, comme dit Jean Gopel qui a écrit la préface, les auteurs prometteurs, ça ose tout. Et en l'occurrence, effectivement, Sébastien Routès, il ose tout. Il écrit un western qui se déroule à Paris, aujourd'hui. Ce qui n'est quand même pas fréquent.
Non, on peut le dire, oui, il n'y a quand même pas beaucoup de rodéo, quand même. Hein.
Non, alors il y a très peu de rodéo.
Il chevauche des Vélib ?
Même pas sur les Vélib. Par contre, il y a quand même un troupeau de bœufs qui va arriver dans un Buffalo Grill à un moment, ou à la fin du roman.
Oui, bien sûr, oui, oui, c'est mais.
Il ose tout.
C'est vrai qu'on donc, partage des fois quelques bières, mais...
Oui. Alors, le personnage, il s'appelle William Larue. C'est une espèce de grand ado attardé, fanat western, western surtout cinéma, et acteur de, on va dire, seconde zone pour être gentil. En gros, il a tourné dans une série télé pas terrible, quelques petits seconds rôles, et surtout une femme riche et belle qui l'entretient. Et puis, il a quoi ? Il a une collection de westerns, de BD, une selle, un Stetson, voilà. Et il a l'impression que ça y est, il a la chance de sa vie le jour où on lui offre le rôle d'Arizona Bill, le premier rôle dans un western français. Mais malheureusement, ce n'est que le début de la fin, parce qu'il trompe sa femme qui s'en aperçoit. Elle le largue, il a plus un rond, il se retrouve dans un hôtel de passe. Et il se retrouve en contact avec une autre frontière, qui n'est pas celle de l'Ouest et pas celle des Indiens, mais celle des Indiens qu'on a chez nous, en fait, des sans-papiers, de tous ceux dont on ne veut pas très bien et qu'on veut mettre dehors. Et alors, William Larue, qui adore les héros courageux qui défendent la veuve et l'orphelin, va se retrouver dans une situation où il va se demander si lui, il est si courageux que ça, finalement. Et puis, voilà. Et puis, après, il faut...
Et puis après, il faut lire le livre, parce qu'on ne va pas dévoiler toute l'histoire, tout ce qui va arriver à ce pauvre héros de l'Ouest parisien, on va dire.
Voilà, donc voilà notre héros de l'Ouest parisien, il faudra lire à la suite pour savoir ce qui se passe. Alors, il faut quand même dire que si on n'aime pas les westerns, si on ne sait pas qui est John Ford, si Bud Spencer ou Terence Hill, c'est quelque chose qui ne dit rien, si on ne connaît pas l'homme qui tue à Liberty Valance ou Rio Bravo... On rate beaucoup de choses dans ce roman.
Donc c'est un roman très référencé.
C'est un roman très référencé, qui a une vraie partie qui se passe aujourd'hui. Donc ce que je parlais, donc toute une thématique autour des sans-papiers, des pauvres...
Oui, il y a quand même...
Thématique d'autant plus, sensible aujourd'hui. Hein, aujourd'hui
oui, puis qui mêle vraiment roman noir, quoi.
Voilà, donc c'est un vrai roman noir. Donc toute cette thématique, effectivement, elle est accessible à tout le monde, sans aucun problème. Cette descente un peu en enfer, entre guillemets, de ce pauvre William Larue, ça c'est quelque chose qui ne demande pas de référence. Par contre, comme ce William Larue, lui, ramène tout à ses western chéris, on rate quand même énormément de références si on ne connaît pas ces westerns-là et si on ne les aime pas un petit peu.
Alors ça doit donner un certain humour et une ironie à ce roman, je suppose.
Ça donne beaucoup d'humour.
Si se prend pour James Stewart dans Paris, ça doit forcément détonner un petit peu.
Voilà, ça étonne un petit peu. Et puis surtout, il y a ce petit plaisir qu'on a quand un auteur parle de choses qu'on aime beaucoup, c'est qu'on les reconnaît. Et donc forcément, quand à un moment un héros dit... Le monde se divise en deux catégories et puis qui continue. Bon, effectivement, quand on
connaît
le truand, ça sonne et ça fait plaisir. On a le sourire. Voilà. Alors, il faut rajouter à ça un auteur qui ose tout. Je vous conseille ceux qui vont lire. Vous allez vous faire très plaisir, mais je vous assure que la scène finale qui se passe pendant le Festival de Cannes, là, elle est carrément jubilatoire.
En plus, ça tombe bien, on est en pleine actualité, il commence dans une semaine.
Voilà, on est en pleine actualité. Et je vous assure que dedans, vous y lirez le plus grand, le coup de latte dans les roustons, parce que c'est bien ça qui s'agit.
Appelons des roustons les couilles, pardon.
Et voilà, exactement, qui va en faire rêver plus d'un quand même, parce que c'est un de ceux qui m'a fait le plus plaisir dans la littérature de ces 10 à 20 dernières années, je dois l'avouer.
Ah ben c'est bien parce que ça a l'air d'une trouvaille, on va dire, originale, un livre qui détonne peut-être un petit peu dans... Bon, il y a plein de bons romans en ce moment, on est content de parler de plein de bons romans noirs, mais ce roman a l'air d'avoir beaucoup d'originalité.
Voilà, et c'est quelque chose que moi, j'avais pas lu ailleurs, c'est très très casse-gueule, je pense quand même. Hein. C'est très casse-gueule d'oser faire toutes ces références. On risque de tomber sur une espèce de système un peu artificiel qui marche pas, et je trouve que Sébastien Routès a très bien réussi son coup parce que le greffon marche, le greffon prend, et il a très bien réussi, peut-être parce que je me reconnais, le lecteur peut se reconnaître dans cet adulte qui n'a pas envie de grandir et qui a envie de ressembler à ces héros qui l'ont tant fait rêver et qui continuent à le faire rêver finalement.
Alors, est-ce que ça vous a donné envie de revoir ces westerns ?
Oui.
Ouais, j'imagine, parce que c'est vrai que quand on se repasse une scène et qu'on se remémore ces films fantastiques, c'est vrai que ça donne envie.
Voilà, ça donne envie d'en revoir, ça donne envie d'en voir certains, parce qu'on les a forcément pas tous vus. Donc, oui, j'ai vu deux John Ford depuis...
Ouais. On va quand même rassurer un peu les lecteurs, peut-être pour qu'il y ait un peu plus de personnes qui soient quand même attirées par ce livre qui semble très bien. Si vraiment on n'y connaît quand même rien du tout au western, ça reste un roman bien écrit.
Alors, si on connaît le western, ça reste un roman bien écrit. On suit parfaitement l'histoire. Il n'y a pas besoin de connaître les westerns pour suivre l'histoire. Il décrit les situations actuelles dans Paris où il montre où est notre nouvelle frontière qui n'est plus à l'ouest mais à l'intérieur. Ça, c'est très bien fait. Mmh. Effectivement, après, ça peut donner aussi envie à des gens qui ne connaissent pas les westerns de les regarder.
Voilà, ça peut donner envie de s'intéresser. Est-ce qu'il y a un petit hommage ou aussi une petite référence à Elmore Leonard qui est très transgenre aux États-Unis et qui lui aussi commet aussi bien dans le roman noir que dans le western ?
Alors là, non, pas tellement.
Non, pas du
tout. C'est vraiment un hommage au cinéma.
Au cinéma,
c'est un hommage au cinéma et à la BD, mais pas tellement justement. Il y avait un petit reproche à faire, mais bon.
Bon, c'est simplement que c'est une référence d'ailleurs facile de ma part, parce que western et noir, on pense souvent, forcément à Elmore Leonard, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, indirectement, il y en a, puisque à un moment, je crois bien qu'il y a une référence à Burt Lancaster dans Valdès, et Valdès, c'est un roman d'Elmore Leonard. Donc, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. On va rappeler les références parce que c'est un livre qui, latinoir, comme je l'ai dit, et c'est pas du tout péjoratif, c'est quand même une petite maison d'édition.
Et une jeune maison d'édition.
Et une jeune maison d'édition. Donc on risque de ne pas le trouver en flagrant étalage chez nos libraires. Donc l'éditeur, c'est latinoir, L'apostrophe.
Voilà.
Hein ?
Oui.
Et le livre
s'appelle... Internet, donc. Il suffit de chercher Latinoir sur Internet, on tombe sur leur site, on peut commander leur bouquin directement.
On peut commander leur bouquin directement. Et donc, le titre du roman ?
La loi de l'Ouest.
La loi de l'Ouest. Le nom de l'auteur ?
Sébastien Routès.
Voilà, Sébastien Routès, qui est par ailleurs traducteur et spécialiste de la littérature hispanique.
Exactement, et animateur d'un certain nombre de sites et de débats en France et en Espagne.
Oui, tout à fait. Et ça fait plaisir de voir un passionné comme ça passer de l'autre côté de la plume et faire une jolie réussite.
Voilà.
Jean-Marc Laherrère, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à bientôt. Et bonne
à
lecture.
Au revoir.
Alors, je profite qu'il nous reste quelques secondes d'antenne parce qu'en fait, dans mes rééditions, j'avais oublié un des très très grands du roman noir américain. Je trouve très peu connu, voire complètement méconnu en France, un auteur qui s'appelle Harry Cruz. Donc, chez Folio Policier en juin, va être édité un des romans qui s'appelle, Le chanteur de gospel. Ici, on est dans le sud des États-Unis, donc on pourrait se retrouver dans un western aussi, mais c'est pas du tout ça. On est vraiment dans le trou du cul du monde, on peut le dire. La misère la plus totale. Les gens normaux sont des monstres et vice-versa. C'est du noir de noir, mais c'est illuminé par une écriture splendide. Harry Cruz, c'est pareil. Si vous tombez sur... je crois qu'il y en a plusieurs maintenant qui sont chez Folio Policier, dont La Foire aux Serpents. C'est des romans... c'est vraiment à découvrir parce que là, on est dans de la très, très belle littérature américaine. Voilà.
Et la littérature du Sud
À la Faulkner.
Voilà, voilà. On ne voulait pas le dire, mais on le dit quand même.
On le dit quand même, désespéré.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Jacques, tu nous rappelles les références du livre dont tu nous as parlé dans la première partie ?
Oui, Racines russes de Reggie Nadelson, une enquête de Artie Cohen parue aux éditions du Masque.
Eh bien voilà, c'est la fin de notre émission. Bonsoir et au mois de juin.
Voilà, parce que le cinéma prendra notre place dans 15 jours.
Au revoir.